Eroua Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 8 novembre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Le sommet de la CEDEAO à Niamey a obtenu la démission de Faustino Imbali comme premier ministre de la Guinée-Bissau. Le président béninois Patrice Talon a annoncé le retrait des réserves de change du franc CFA de la Banque de France. La police malienne a secouru 64 victimes de trafic humain, dont des enfants, avec l'aide d'Interpol. Législative à Maurice, le Premier ministre Pravin Jugnauth a revendiqué la victoire. 80% des bulletins dépouillés donnent une large avance à l'Alliance mauricienne. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée-Bissau, le Premier ministre Faustino Imbali, récemment nommé par le président José Mario Vaz, a remis sa démission. La CEDEAO avait donné 48 heures au président José Mario Vaz pour revenir sur sa décision de limoger le Premier ministre Aristide Gomes. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu à Niamey au Niger. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Le sommet extraordinaire a décidé de condamner fermement la décision du président Vaz de démettre le Premier ministre et son gouvernement le 28 octobre dernier, la considérant comme illégale. Ensuite, le sommet a confirmé la date de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le 24 novembre prochain, tout en réaffirmant son plein soutien au Premier ministre Gomes et à son équipe. La conférence a aussi exigé la démission immédiate du nouveau Premier ministre que le président Vaz a nommé. La nouvelle, c'est que le Premier ministre a démissionné. Et la conférence a également estimé que tout recours à l'armée de la part du président Vaz d'imposer ses actes seront considérés comme un coup d'État. La conférence a demandé à la commission de la CEDEAO d'établir une liste de l'ensemble des personnes qui s'opposent au processus électoral en cours en Guinée-Bissau pour des sanctions. Et l'autre décision importante, c'est que bientôt, 6 chefs d'État vont se rendre à Bissau pour informer le président Vaz de toutes ces décisions. Il s'agit du président nigérien Issoufou Mamadou, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, du président ivoirien Alassane Ouattara, du gambien, du président ghanéen, du président guinéen et du président du Nigeria. Cette mission des chefs d'État va être précédée par une mission des chefs d'État-major des armées de ces différents pays.
La France n'entend pas imposer quoi que ce soit en matière de réforme du franc CFA, a dit le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, suite à la décision de Patrice Talon de modifier la gestion des devises étrangères du Bénin. Le point avec Michel Joseph.
Le chef de l'État béninois a annoncé jeudi son intention de retirer de la Banque de France la réserve de change de son pays et la déposer à la Banque centrale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Celle-ci sera chargée de gérer en totalité les réserves de devises du Bénin, a souligné le président Talon, sans fournir de calendrier pour ses opérations. Selon un accord signé avec la France, les pays de la zone CFA déposent la moitié de leurs devises étrangères à la Banque de France, ce qui garantit une convertibilité illimitée avec l'euro. Des voix s'élèvent de plus en plus en Afrique pour réclamer la fin de ce système. Ce n'est pas à la France de faire de propositions ou d'imposer quoi que ce soit, a déclaré le ministre français de l'économie, assurant que si une majorité d'États membres de la zone franc veulent avancer vers une réforme ambitieuse, la France répondra oui.
Le Premier ministre sortant mauricien Pravin Jugnauth a revendiqué la victoire aux législatives. Les projections portant sur plus de 80% des bulletins dépouillés donnaient une large avance à l'Alliance mauricienne qui, selon les chiffres communiqués par la commission électorale, obtiendrait 38 sièges contre 13 à l'Alliance nationale et 9 au mouvement militant mauricien. La police malienne a secouru 64 victimes de trafic humain, dont des enfants livrés à l'exploitation sexuelle et au travail forcé, a annoncé Interpol, qui a coordonné l'opération en octobre. 4 personnes ont été arrêtées. Les victimes, principalement des femmes et des filles, venaient du Burkina Faso, de Guinée, du Nigeria et du Mali. Parmi elles se trouvaient 3 garçons forcés de s'adonner à la mendicité. Le gouvernement malien a adopté un décret portant création d'une unité de police dédiée à la lutte contre le trafic humain. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Le COGEP, parti de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, a dénoncé un harcèlement politique contre son président au lendemain d'une décision de le juger en Côte d'Ivoire pour des crimes présumés commis entre 2010 et 2011. Charles Blé Goudé, acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, est actuellement en liberté conditionnelle aux Pays-Bas en attendant l'examen de l'appel de la procureure par la CPI. Des experts indépendants de l'ONU ont estimé dans un rapport que la mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, décédé en juin après s'être effondré au tribunal, pouvait s'apparenter à un assassinat arbitraire sanctionné par l'État. Morsi était détenu dans des conditions qui ne peuvent être décrites que comme étant brutales, notamment pendant sa détention durant 5 ans dans le centre pénitentiaire de Tora, ont écrit les experts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues pour le troisième vendredi consécutif contre leur dirigeant. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
À Bassoura, les affrontements ont forcé les autorités à refermer le port d'Oum Kassra. Après quelques heures de réouverture, les accès aux administrations et certaines installations pétrolières sont bloqués par des piquets de grève. Les camions-citernes transportant 100 000 barils de pétrole sont bloqués dans le nord du pays. À Bagdad, manifestants et forces de sécurité se font face sur 4 des 12 ponts de la capitale. Les protestataires assurent qu'ils resteront sur les places publiques jusqu'à obtenir une refonte du système politique post-Saddam Hussein. Le premier ministre Adel Abdel Mahdi multiplie les communiqués et réunions télévisées pour expliquer qu'il est temps de retourner à la vie normale. L'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite du pays, a de nouveau appelé les autorités à répondre, je cite, « aux demandes légitimes des manifestants ». Hier, au moins 13 manifestants ont été tués, selon des sources médicales. Près de 300 personnes, la majorité des manifestants, ont péri et des milliers blessés depuis le 1er octobre. Les défenseurs des droits humains dénoncent des arrestations, enlèvements et intimidations de militants et médecins par des forces obscures que le gouvernement a su ne pas pouvoir identifier.
L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré que les discussions cette semaine à Genève sur la constitution syrienne s'étaient déroulées mieux que prévu et a annoncé une nouvelle rencontre le 25 novembre. Le comité chargé de réformer la constitution de 2012 en vue de prochaines élections a été inauguré le 30 octobre au Palais des Nations, siège européen de l'ONU, en présence de personnes représentant le gouvernement de Damas, l'opposition et la société civile syrienne. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump se lance dans une opération de séduction de l'électorat noir avant la présidentielle de 2020. Le point avec Idriss Fall.
Le président américain lance aujourd'hui, depuis Atlanta en Géorgie, la coalition dite des voix noires pour Trump. Les Noirs américains n'ont jamais eu un meilleur défenseur que le président Trump, assure Katrina Pearson, membre de son équipe de campagne. En 2016, le candidat républicain n'avait obtenu que 8% des votes de l'électorat noir contre 88% pour sa rivale démocrate Hillary Clinton. Cependant, la mobilisation des Noirs pour Hillary Clinton a été très faible dans plusieurs États comme le Wisconsin, qui avait même basculé en faveur de Trump. Les Africains américains représentent environ 13% de la population des États-Unis. Selon un sondage réalisé par l'Université Quinnipiac en juillet, 80% des électeurs noirs estiment que Donald Trump est raciste. Les démocrates espèrent donc remobiliser une partie de l'électorat noir à des niveaux proches des deux élections de Barack Obama en 2008 et 2012. Mais tout dépendra du nom du démocrate qui va affronter le président sortant l'année prochaine.
Donald Trump s'est dit opposé à une suppression totale des tarifs douaniers supplémentaires imposés depuis mars 2018 sur des centaines de milliards de dollars de biens chinois. Interrogé sur la levée progressive de la totalité des droits de douane supplémentaires annoncés par Pékin hier, il a répondu qu'il ne le ferait pas. Le président américain a par ailleurs affirmé qu'un accord avec la Chine se fera aux États-Unis, peut-être dans l'Iowa. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. La Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le président béninois Patrice Talon annonce le retrait des réserves de change du franc CFA qui se trouvent en France. La Banque centrale des pays d'Afrique de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, va gérer la totalité de ses réserves de devises et va les répartir auprès des diverses banques centrales dans le monde. Le chef de l'État béninois assure que cela se fera très rapidement sans donner de calendrier précis. L'Afrique a besoin de mesures plus fortes pour développer les énergies propres, faute de quoi 530 millions de personnes seront encore privées d'électricité en 2030, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 80% des entreprises subsahariennes restent soumises à des coupures de courant et 80% des ménages cuisinent au bois, voire de plus en plus au gaz. Pour finir cette Minute Éco, les attaques réitérées des groupes djihadistes contre des employés de mines d'or au Burkina Faso risquent d'avoir un impact sur la production, selon des experts. Les sites miniers ne sont pas directement visés par les attaques, mais ça va créer de l'inquiétude pour les investisseurs. La société minière canadienne Semafo a d'ailleurs annoncé jeudi la suspension de ses opérations jusqu'à nouvel ordre.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Début ce vendredi de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, l'enjeu de la compétition concerne les tickets pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Trois sont en jeu. Pays hôte, l'Égypte a quelques faveurs des pronostics. Le pays des pharaons veut déjà effacer la piètre prestation de son équipe nationale A lors de la CAN 2019 à domicile. Champion en titre, le Nigeria sera aussi à suivre. Pour sa deuxième participation, le Mali s'avance avec beaucoup d'ambition. De son côté, espérant que les difficultés dans la préparation ne se répercutent pas sur ses matchs, l'Afrique du Sud espère tirer son épingle du jeu. Le Cameroun avance dans l'inconnu. Son sélectionneur Rigobert Song doit faire sans quelques noms déterminants durant les éliminatoires. Autre pays à sa première participation, le Ghana, avec le Bring Back the Love, nouveau slogan de la nouvelle fédération. Les Ghanéens croient en cette qualification pour Tokyo 2020. Ghanéens et Camerounais croisent les crampons ce soir. Puis il y a la Côte d'Ivoire et la Zambie qu'il ne faudra pas négliger.
Manchester United et Séville qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa.
Passeur puis buteur face au Partizan Belgrade, 3-0. Marcus Rashford a permis à Manchester United, premier de son groupe L, de valider son ticket pour le prochain tour. Le FC Séville a poursuivi son carton plein avec une démonstration face au Luxembourgeois de Dudelange, 5-2. Pour se qualifier pour les 16e de finale, déjà battu à l'aller, la Lazio s'est encore inclinée hier au Stadio Olimpico contre le Celtic 2-1. La soirée n'a pas non plus souri à l'AS Rome qui s'est incliné au bout du temps additionnel face au leader de la Bundesliga, Mönchengladbach, sur un but de Marcus Thuram.
Platini attaque aussi l'UEFA au porte-monnaie.
En pleine campagne de réhabilitation personnelle après sa suspension, Michel Platini réclame à l'UEFA plusieurs millions d'euros d'arriérés de salaire et de bonus, suspendus pendant 4 ans par la commission d'éthique de la FIFA pour un paiement jugé déloyal de 1,8 million d'euros. L'ancien président de l'UEFA réclame ce qu'il estime lui être dû au titre de cette fonction, même s'il n'a pas pu l'exercer à partir de 2015.
Belle finale en vue entre Seattle et Toronto ce week-end en MLS.
Pas de stars à l'affiche, mais des habitués. La finale du championnat nord-américain de football oppose ce dimanche Seattle et Toronto, qui s'affrontent pour la 3e fois en 4 ans à ce stade. Cette 24e finale propose une affiche entre les deux clubs les plus réguliers de ces 4 dernières années, dont l'expérience en play-off a fait la différence en finale de conférence. Seattle s'est imposé 3-1 chez le Los Angeles FC du Mexicain Carlos Vela, MVP et meilleur buteur de la saison. Toronto en a fait de même 2-1 à Atlanta, champion surprise l'an passé dès sa 2e saison.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. Au Bénin, au lendemain de la promulgation de la révision de la Constitution, les populations sont partagées sur la nécessité d'une telle modification dans un climat marqué par des divergences aiguës au plan politique et social. Que pensent les Béninois de la retouche technique opérée sur la loi fondamentale? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Après deux tentatives infructueuses menées au cours des deux premières années de son mandat à la tête du Bénin, Patrice Talon réussit finalement la révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale le 1er novembre dernier. Validée conforme à la Constitution le 6 novembre, elle a été promulguée le lendemain par le chef de l'État. Dans le rang des populations, les sentiments sont partagés. Héloïse Alihounou, juriste, félicite l'aspect de cette modification qui milite en faveur d'une représentativité des femmes au Parlement, mais pense qu'il faudra à passer à autre chose maintenant.
La question de la révision de la Constitution est une question qui a traversé plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, comme c'est fait, eh bien je dis bravo. Maintenant, on peut passer à autre chose. Ce qui me paraît bien positif, c'est déjà la discrimination positive des femmes pour qu'elles soient beaucoup plus représentées à l'Assemblée nationale. Mais je me dis que s'il y avait vraiment la volonté de promouvoir les femmes et de les voir davantage à l'Assemblée nationale, on pouvait faire aussi autrement.
Marcel Roncarin, qui est architecte de formation, n'est pas de cet avis. Il pense qu'une telle retouche devrait faire l'objet d'un consensus et qu'en l'état, cette révision constitutionnelle pourrait causer bien du dommage à la cohésion sociale déjà fragiliser.
Je pense que la Constitution, c'est le pacte social commun. Et je pense que dans ce climat de division où le chef de l'État veut de la paix et a initié un dialogue qui a pour objectif de réunir les fils du pays et sur l'essentiel afin qu'un consensus soit retrouvé de tous en tant que citoyen béninois, je n'approuve pas cette révision faite dans cette condition-là. Ce qui se fait n'est pas en phase avec ce qu'il avait promis.
Beaucoup pensent aussi que les députés auraient déjoué les pronostics et montré qu'ils sont là avant tout pour l'intérêt supérieur de la nation. Anissé Quincon est conducteur de taximoto. Il ne cache pas sa colère.
98% des Béninois ne reconnaissent pas ce député. Ce député Molokolo, ce député Godio, nous ne le reconnaissons pas. C'est Talon qui l'a nommé là. Tout ce que Talon fait là, c'est pour quelques temps. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Ils sont là, ils rattraper. Ce gouvernement, on est déjà fatigué pour ce gouvernement-là. La manière qu'il est en train de nous gérer là, c'est pas bon.
Fruit des propositions issues du dialogue politique convoqué par le président béninois pour tenter de sortir de la crise politique, la révision de la Constitution, compte tenu des changements qu'il apporte, reste un travail bâclé selon Maître Sadi Kualao, président de GEDES Afrique.
Je pense très sincèrement que c'est un travail précipité et bâclé. On vous dit, on a créé désormais un poste de vice-président de la République parce qu'on veut couper les élections. Est-ce qu'un travail de cette importance peut être bâclé au point que ce ne soit qu'une discussion entre deux ou trois personnes? C'est trop important. Et aujourd'hui, on sort du chapeau, ce poste de vice-président, après les rumeurs qui ont circulé, qu'est-ce que ça cache?
De nombreux spécialistes s'accordent à penser que la modification apportée à la Constitution comporte en elle des non-dits qui pourraient générer des discordes dans la mise en application. De Cotonou, Ginette Leadonné pour VOA Afrique.
Les États-Unis ont placé sur leur liste noire Amadou Koufa, chef d'un groupe djihadiste malien accusé d'avoir mené des attaques dans le centre du pays. Selon le département d'État, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2 ans. John Lindon a demandé à Brett Bruen, président de Global Situation Room à Washington, qu'est-ce que cela signifiait concrètement d'être sur la liste noire.
Il y en a plusieurs aspects. Il y a bien sûr l'aspect financier, l'aspect opérationnel, c'est-à-dire ça va être plus difficile pour lui en termes d'utiliser l'argent, de bouger dans la région et aussi le contact des autres gens avec lui va être plus compliqué. N'importe quelle entreprise, ça pourrait être une petite boulangerie qui fait des échanges avec lui, pourrait être ciblée par cette liste. Mais aussi, il y a un aspect plutôt, on va dire, diplomatique, nommer quelqu'un qui est membre de cette liste et qui pourrait peut-être se trouver dans les yeux des autorités dans la région à cause du fait que le gouvernement américain a dit cette personne-là, c'est une personne d'intérêt pour nous et le prix, si vous voulez, va être assez élevé pour le capturer.
La question qu'on se pose, est-ce que toutes ces sanctions qu'on inflige à ceux qui sont placés sur la liste noire sont vraiment efficaces? Parfois, on parle de confiscation des avoirs, des interdictions de voyage ici aux États-Unis, mais il arrive que ces gens-là n'aient même pas d'avoir aux États-Unis et ne pensent même pas à voyager aux États-Unis. Est-ce que c'est efficace, ces sanctions?
Bon, c'est comme je viens de dire, il y en a des aspects directs et il y en a des aspects indirects. C'est-à-dire que même le fait qu'il ne va pas, bien sûr, voyager aux États-Unis, peut-être qu'il n'a pas des intérêts financiers qui ont été touchés par ces sanctions. Le fait que son nom ça apparaît sur cette liste va indiquer au gouvernement, va indiquer aux autorités que cette personne-là, c'est une priorité pour le gouvernement américain et il y a un effet à cause de ça.
L'analyste Brett Bruen était joint ici à Washington. La police malienne a secouru 64 victimes de trafic humain, dont des enfants livrés à l'exploitation sexuelle et au travail forcé, a annoncé Interpol, qui a coordonné l'opération en octobre. Les victimes, principalement des femmes et des filles, venaient du Burkina Faso, de Guinée, du Nigeria et du Mali. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint la présidente de Wildaf Mali, l'association Femmes, Droits et Développement en Afrique, Bintou Founé Samaké.
Et 64 personnes sont victimes de traite au Mali. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, le Mali est une des voies que les jeunes empruntent pour aller vers l'Europe. Et cette voie que les jeunes empruntent, souvent, il y a des personnes qui traversent le Mali sans leur propre volonté. C'est pas avec leur gré qu'ils font ce chemin-là. Et nous avons constaté, surtout à Bamako, à Gao, qu'il y a des filles, des jeunes filles souvent, qui se retrouvent dans le domaine de la prostitution, surtout au niveau des jeunes d'orpaillage, et qui sont souvent victimes de la traite des personnes. Parce que aujourd'hui, le Mali est un pays qui a besoin de main-d'œuvre dans les mines. Et des personnes sont amenées malgré leurs regrets pour être utilisé dans des mines comme main-d'œuvre ou comme versé dans la prostitution. Donc, ça ne me surprend pas qu'on puisse dire qu'il y a 64 personnes qui sont victimes, dont plus de 60 femmes. Ça ne me surprend pas du tout, étant une Malienne et étant vraiment au courant de ce qui se passe vraiment en la matière.
Alors, la plupart des victimes venaient de différents pays, le Burkina Faso, la Guinée, le Nigeria, mais également du Mali. Cela montre que les réseaux criminels opèrent dans toute la région.
Oui, ces victimes viennent de tous les pays frontaliers, du Mali presque vers le sud. Il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina, et pas mal d'autres pays. Il y a même du Cameroun, de la RDC. On a beaucoup de nationalités parce que qu'est-ce qui facilite leur accès au Mali? Parce que le Mali n'a pas de visa entre ces pays-là. L'entrée est libre ici et de se présenter aux frontières avec une pièce d'identité en cours de validité. Et vous avez facilement accès au Mali. Et aussi, le Mali, c'est un pays qui est ouvert, qui a inscrit dans sa constitution le fait qu'il accepte l'unité africaine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au Mali, nous avons plein de nationalités qui sont là et qui sont accueillis à bras ouverts, mais souvent qui sont des personnes qui sont souvent victimes de la traite des personnes.
Bintou Founé Samaké, la présidente de Wildaf Mali, était jointe à Bamako.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hier, le président du Bénin, Patrice Talon, a annoncé le retrait des réserves de change du franc CFA qui se trouvent en France. Il veut que la Banque centrale des pays de l'UEMOA gère désormais la totalité de ses réserves de devises pour les répartir auprès de plusieurs banques centrales dans le monde. Cette mesure risque-t-elle de bouleverser le fonctionnement du franc CFA? Eh bien, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'économiste Malik Sané, enseignant et chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, pour un élément de réponse.
Tout dépend, parce que vous savez, le dépôt de 50% de nos réserves au niveau du compte d'opération en France, logé par le Trésor français, c'est notamment pour servir de garantie contre un déficit illimité, n'est-ce pas, de nos comptes courants. Cela veut dire que donc, même si nos exportations sont relativement limitées par rapport à nos importations et que le solde courant est déficitaire, donc l'idée c'était que ces réserves-là puissent servir de garantie et la France donc permet un déficit illimité.
Mais ces dépôts sont rémunérés.
C'est un compte rémunéré si une partie est utilisée. C'est un compte rémunéré et les sommes perçues en termes d'intérêt figurent dans les comptes de la Banque centrale.
Est-ce que la décision annoncée par le président Talon, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir des implications positives sur l'économie de la zone franc?
Il ne s'agit pas simplement de les ramener et de les stocker ici. Hein. Ce que le président Talon a dit, c'est qu'une partie des réserves, comme aujourd'hui les 50%, peuvent être détenues au niveau de nos banques centrales. Maintenant, une partie peut être aussi placée dans des banques étrangères, en Amérique, et en Europe ou en Asie. Parce que cela peut favoriser, n'est-ce pas, la coopération entre banques centrales africaines et du monde. Et deuxièmement, cela peut effectivement servir de placement rémunéré qui pourrait effectivement accroître les possibilités de la banque centrale. Là, on ne sait pas encore quels sont en tout cas les accords que les pays ont pu tenir avec la France.
La France dit que c'est aux pays de la zone franc de proposer la réforme.
Oui, mais la France a toujours dit ça. À l'époque déjà, sous le président Hollande, il est venu ici au Sénégal, à l'Assemblée nationale, et il avait dit que si les pays voulaient sortir de la zone franc, la France les accompagnera. Parce que la zone franc, c'est la monnaie des pays africains, c'est pas la monnaie de la France.
Est-ce qu'il n'y a pas trop d'amalgame au niveau du débat public sur cette question de la zone franc?
Oui, ça c'est évident. Parce que vous savez, la monnaie a de multiples dimensions. Il y a la dimension sociale, il y a la dimension historique, il y a la dimension politique, il y a la dimension technique. Et donc on parle souvent de la monnaie, notamment le franc CFA, en faisant l'amalgame sur l'ensemble des dimensions de la monnaie, de telle sorte que le débat devient parfois flou en mélangeant beaucoup de choses. Mais c'est un débat qui est intéressant et pour quand même avoir une meilleure perception de cette monnaie, qui a des avantages et des inconvénients. Toute mesure a des avantages et des inconvénients. Toutes les mesures en économie, y compris la question de la monnaie.
C'était l'économiste Malik Sané, enseignant et chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et voilà, nous mettons un terme à cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïman. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout bon week-end et bon courage.